Le rendez-vous des amateurs de sport. Avec Michel Tifo et Dominique Bolduc. Bienvenue dans le vestiaire. Dans le vestiaire.
Bonne fin d'après-midi, mesdames, messieurs. Si vous pensez que vos animateurs de sport ne pratiquent pas les sports, vous vous trompez. Dominique Bolduc, au moment où on se parle, est sur un terrain de golf au lac Saint-Jean, à Saint-Gédéon. Et moi, j'arrive de jouer au basketball au parc Saint-Jacques. C'est plus dur le basket que le golf. C'est qu'on a inauguré, avec mes collègues conseillers municipaux, après-midi, on a inauguré les nouveaux terrains au parc Saint-Jacques. Et on a décidé de jouer un match de basket contre les étudiants de la polyvalente d'Arvida, le bleu et or. Ils sont pas mal meilleurs que nous autres. Mais c'est un bon exercice, le basketball. Cours à gauche, cours à droite, recule, avance. Étire les bras, bloque. C'est sûr et certain qu'on a perdu, mais c'est un bel exercice, puis il fait beau, en plus. Alors, salutations aux profs, à la direction et aux jeunes de la polyvalente d'Arvida. La grosse nouvelle dans le monde du sport aujourd'hui, c'est que le docteur Laurent Duvernay-Tardy a annoncé sa retraite comme joueur de football. Je l'appelle docteur parce que je vais vous raconter sa carrière. D'abord, il est allé à McGill. McGill, quand tu sors de là, t'as une bonne job. Ah, il est devenu médecin. Il a été repêché par, parce que c'est un maudit bon joueur de football, il jouait pour l'Université McGill au football, repêché sixième ronde par Kansas City en 2014. Il a joué avec les Chiefs de 14 à 2021, après ça avec les Jets de New York en fin de carrière en 2021-2022. En 2018, il a obtenu son doctorat en médecine, ce que je n'ai jamais réussi à faire. Et en 2020, il a joué le Super Bowl avec les Chiefs de Kansas City. 79 parties en carrière. Pas besoin de vous dire qu'il est pas mal pris pour la suite de sa carrière. Il est médecin. Et joueur de football, ben c'est quand même assez payant. Toujours au football ce soir, les Giants de New York contre les 49ers de San Francisco qui n'ont pas perdu encore. On va en discuter tantôt avec notre spécialiste de football, Jean-François Maltais. On va jaser baseball aussi tantôt avec Michel Bureau. Ce soir, les Jays qui vont bien, 5 victoires de suite. Les Jays contre les Yankees de New York. Mais, ce soir, le pitcher pour les Yankees, c'est l'un des meilleurs de la Ligue, Gerrit Cole. Mais on en est bon également, parce que là, les lanceurs vont bien du côté des Jays, qui, je le rappelle, 5 victoires de suite. C'est Berrios qui lance ce soir dans quelques instants. On en discute, on en parle avec Michel Bureau. Tennis, Leilani Fernandez est sur le court. Au Mexique, il doit faire chaud pour jouer au tennis. Tantôt, c'était 2-1 pour Sofia Kenin. Attendez un petit peu. Je vais aller vous chercher le résultat du match parce que la partie est en cours. Puis 2-1, c'est loin d'être terminé. Alors, je vais vous donner le score à date. On me dit que, pour faire du mal, je n'ai pas le score à date pour l'instant. Mais ça va me revenir. Je l'ai. 2-2. Alors, Léna a gagné 2-2 contre Kenin. Kenin qui est l'une des meilleures mondiales. Ah! Pardon, à part ça, au football, on l'a dit tantôt, les Giants de New York vont jouer ce soir contre les 49ers de San Francisco. Ce matin, sur la glace à Brossard, c'était le début du camp d'entraînement du Canadien. Pour ceux que ça intéresse, les trios, on va en discuter demain avec Gaston Therrien. Ce matin, les trios étaient Caulfield, Suzuki et Heinemann. Harvey Pinard joue avec Gallagher et Beck. Et il y a le défenseur Chris Weidman, qui sera absent pour une période indéterminée. On dit qu'il est blessé au dos. On va s'arrêter quelques instants dans un petit moment. Un autre beau sport. Et quelqu'un de bien placé pour nous en parler, notre spécialiste de boxe, Michel Desgagnés.
Pizza Pro Arvida poursuit sur sa lancée. Nos spéciaux pour un temps limité, la 9 pouces seulement 13,29 $, 2 9 pouces seulement 24,99 $.
Wow!
Attends, j'ai pas fini, 3 pour 33.
Mort!
3 pizzas 9 pouces pour 33 $. Et nos trios sont toujours aussi populaires. Commandez-en un, vous verrez. Au comptoir, en salle à manger ou sur livraison, la 9 pouces en spécial. Chez Pizza Pro, rue La Salle Arvida. Livraison 548-9141.
Ça sent la chasse chez Chasse et Pêche Chicoutimi. Urine de jument en chaleur, 1 litre, 50% de rabais, 9,99 $. Chasse et Pêche Chicoutimi, coin autoroute.
Quand on porte des prothèses dentaires depuis trop longtemps, Dominique, on peut se rendre compte que notre visage se transforme, que mastiquer peut-être devient plus difficile.
En fait, Annick, je dis toujours que c'est pas nécessaire d'attendre de perdre son dentier en soufflant sur les bougies de son gâteau d'anniversaire pour penser à le changer. Je vous dis ça avec humour, mais à titre de naturologiste, je vous invite sérieusement à faire attention à votre bouche, à la santé de vos gencives, à votre système digestif aussi. Tout a un lien. Attendez pas que vos prothèses soient trop usées.
À la clinique Mondenturo de Jonquière, la première consultation est gratuite et sans aucune obligation. N'hésitez pas à poser toutes vos questions.
Avis à la population. H. Grégoire Saguenay est en mode achat. Obtiens le meilleur prix pour ta voiture. Point final. Ne manque pas ta chance et maximise la valeur de ton véhicule. Appelle-nous maintenant, on paye plus. 549-3320.
Ma radio d'ici.
92.5.
Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifo et Dominique Bolduc.
4h moins 25 minutes. Profitez du beau temps, là. Même si l'été achève, là, dans les prochaines heures, on va tomber à l'automne. Mais pour encore une dizaine de jours, on a une belle température qui s'annonce. Donc, on peut encore souper dehors, puis encore bien plus, prendre un drink. On va prendre la direction de la boxe. Parce qu'il y a un gros combat qui s'en vient chez les femmes. Kim Clavel va boxer prochainement. Et j'ai eu la chance de la rencontrer il y a une couple de semaines avec Michel Desgagnés, qui est notre spécialiste en boxe, qui est avec nous dans le vestiaire. Michel, bonjour!
Bonjour Michel.
On parlait un petit peu de boxe féminine. On a eu la chance de rencontrer Kim Clavel. On aura l'occasion de reparler de son combat. Mais j'aimerais que tu nous parles un petit peu des débuts de la boxe féminine ici dans la région et ailleurs au Québec.
C'est beaucoup. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une fille qui a été vraiment la pionnière là, un petit peu au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis même au Québec et au Canada. Danielle Bouchard, qui est entraîneur de Kim Clavel. C'est elle qui gère la carrière, qui entraîne Kim Clavel, qui l'a amené au sommet à l'heure actuelle. Danielle Bouchard a commencé ses débuts de la boxe en 1992. Elle fait 55 combats amateurs, a été sur l'équipe nationale pendant quelques années, a été classée numéro un au monde pendant 2 ans par l'AIBA, mais il n'y avait pas de championnat du monde dans ce temps-là. Mais elle se battait un petit peu partout là dans le monde. Elle a été classée au monde. En 2003, elle a fait ses débuts de carrière professionnelle. Elle a été la première Québécoise, okay, avec 12 combats pro. Puis elle a fait même un combat de championnat en Argentine pour une ceinture WBC en 2008. Sa fille-là a un cheminement extraordinaire. Puis de coach depuis 15 ans, a été une des entraîneurs de l'équipe nationale aussi aux Jeux Paname, a été aux Jeux Olympiques avec Ariane Fortin, avec Mandy Boujol, qui est une Torontoise. Puis prochainement, elle se prépare là, pour le gros combat de Kim Clavel. Fait que je trouvais là que fallait souligner ça. Puis en plus, on a des filles qui ont été championnes du monde. Il y a eu Christelle Sanson en 2001, la première fille, je pense qu'au Canada, qui a été championne du monde. Puis c'est une petite fille de Québec. Tu as eu Ariane Fortin, qui vient de Lévis, à Québec, qui a été 2 fois championne du monde. Puis dernièrement, tu as une fille, Caroline, j'ai oublié le nom, la dernière là, qui s'est battue. C'est une petite fille de Trois-Rivières.
Mais moi, je suis impressionné, Michel, de voir dans les clubs de boxe ici de la région, puis partout au Québec, le nombre de filles qui s'inscrivent à la pratique de la boxe. Là, il y en a plusieurs qui le font pour l'entraînement, puis je le comprends, parce que la boxe est l'un des meilleurs entraînements pour la condition physique, mais il y en a qui le font pour faire des combats, et ça m'impressionne.
Ah oui, il y en a qui le font pour faire des combats, puis on en a quand même plusieurs. Disons qu'on a eu une baisse. Après la COVID, c'est sûr que nos clubs sont un petit peu vidés. Au niveau des filles, ça a été la même chose. Mais à l'heure actuelle, je vous dirais, dans la majorité des clubs, on a à peu près 30% là, que dans les filles qui veulent apprendre la boxe puis qui veulent se diriger vers des combats, qui 30% des filles d'inscription filles. Juste en sport-études, moi, j'ai 6 filles sur 15 gars. Déjà là, puis il y en a plusieurs là-dedans.
Mais dans tes 6 filles de sport-études, les 6 font des combats, sont combattantes ou bien juste pour l'entraînement?
Il y en a 3 là-dedans qui font des combats.
Eh bien, tu sais, il me semble que ça fait bizarre. Au début, quand il y a eu des premiers combats de boxe du côté des filles, je me disais, ça se peut pas, des filles qui se tapent dessus, tu sais, parce qu'il y en a qui peuvent se faire casser le nez, un œil au beurre noir. Tu sais, un gars avec un œil au beurre noir, c'est pas pire. Il me semble qu'une fille qui s'en va veiller au Berlioz le soir avec un œil au beurre noir, ben, il mange un coup de poing sur un œil, tu sais, ça fait drôle.
C'est un autre, ça paraît différent. Sauf que Je peux te dire même, puis je vais l'avouer, quand dans les débuts, à fin des années 80-90, quand tu voyais une fille sur le ring, je peux pas dire que c'était si élégant que ça, parce qu'il n'y avait pas la fille à lancer une balle, c'était pas dans le génétique, c'était pas dans la, tu sais, un sport de gosse.
Par contre, Michel, dans l'entraînement de boxe, il y a de la corde à danser, m'a dit quelque chose, que la corde à danser, les filles sont pas mal meilleures que les gars.
Dans la rue, oui, mais dans le gym, non.
Non?
Non, la fille qui arrive dans le gym faire la corde à danser, elle, comme le gars, c'est égal. Elle en a fait un peu dans la rue, mais à part ça, là, c'est vraiment, là, c'est différent.
Ah, mais je pensais qu'il partait avec un avantage marqué.
Ah, même pas. Tu vois des gars pas mal meilleurs que des filles, souvent, là, à corde à danser. Tout est dans l'entraînement, tout est dans la pratique, de toute manière. Là.
Bon, on va parler un petit peu de nos champions du monde, nos championnes, parce qu'il y en a eu des champions du monde. T'en as nommé quelques-unes tantôt, mais...
Moi, je te parle de... elle était vraiment, là, Ariane Fortin, c'est vraiment une pionnière dans le milieu. Elle a fait les Olympiques déjà en 2016, a été championne du monde deux fois. Elle a fait 150 combats amateurs, la fille. Aujourd'hui, elle donne des conférences. C'est une belle tête, un bel exemple là, pour la boxe là, québécoise, même pour au niveau des gars, des filles. Là. C'est une de nos pionnières.
Et il faut le dire, Michel, que ce soit des gars ou des filles en boxe amateur, en gymnase, puis même en combat, parce que c'est amateur, les combattants ont des casques, c'est obligatoire.
Oui, les combattants ont des casques, mais depuis quelques années, quand tu arrives sur des championnats nationaux, les gars enlèvent les casques.
C'est une grosse décision pour un boxeur ou pour une boxeuse d'enlever son casque?
C'est une grosse décision parce que le casque, je te dirais bien, il protège pas nécessairement contre les commotions cérébrales, mais il va protéger contre des coups de tête, un coup de coude accidentel, des choses de même. Mais c'est sûr qu'il réduit un certain impact, mais il protège pas nécessairement
Admettons qu'il y a un jeune de 14, 15, 16 ans qui s'entraîne et qui veut devenir professionnel plus tard, veut enlever le casque, ça prend automatiquement la permission des parents?
Oui, ça prend la permission du coach, puis moi, ça n'arrivera pas dans mon gym.
Non? Dans le gym, tout le monde a un casque.
Ah oui, tout le monde.
Mais même si un professionnel, demain matin, il y a un professionnel qui décide d'aller s'entraîner, met le casque aussi?
Oui, puis s'il veut pas le mettre, je lui dis, tu iras t'entraîner ailleurs, mon gars, là.
Ah, OK. Mais pourquoi le casque, si t'es professionnel? Ben, pour éviter une blessure ou quoi que ce soit?
Ah, le casque, pour éviter une blessure. Puis en plus, ben c'est en gymnase, là. Tu prends moins attention. C'est un entraînement. Tu pratiques des techniques. Puis ton casque, ben il te protège. T'as pas de coupure. Puis le casque d'entraînement, il est beaucoup plus épais aussi.
Au niveau technique, là, tu nous parles du casque, mais les boxeurs, ils n'ont pas beaucoup de protection. Ils ont ce qu'ils appellent le mouthpiece. Ça protège-tu pas mal les dents?
Ben, ça protège les dents. Puis je vais te poser la question. Pour toi, là, c'est quoi le mouthpiece? Protège les dents seulement?
La mâchoire.
C'est les commotions cérébrales.
Commotions cérébrales également, oui.
Oui, parce qu'un bon mouthpiece bien ajusté, tu te fermes la bouche comme il faut, tout est bien à côté, fait que ta mâchoire est pas libre.
Et côté technique, on voit ça souvent, combat de boxe professionnel, là, tu sais, le boxeur ou la boxeuse perd son mouthpiece, l'arbitre est obligé d'arrêter le combat immédiatement, je pense.
Normalement, oui.
Normalement, oui. Mais pourquoi tu dis normalement, c'est pas obligatoire?
Ah, ben, tu vas arriver dans certains combats professionnels, tu vas voir qu'il a perdu son mouthpiece, puis l'arbitre, des fois, va retarder le faire. Mais en principe, il devrait arrêter le combat. En boxe amateur, c'est automatique.
Automatique, oui.
C'est automatique, c'est officiel. On est beaucoup plus strict sur les règlements qu'en boxe professionnelle, souvent. Très souvent, d'ailleurs.
Puis, on parle de technique, là, encaisser des coups. Parce qu'en boxe, t'en donnes, mais t'en reçois aussi. Y a-t-il une façon, t'es entraîneur de boxe, Michel, puis t'entraînes encore en sport-études, y a-t-il une façon... Mohamed Ali était un spécialiste, il bougeait tellement du cou puis du dos, les adversaires n'étaient pas capables de le pincer à plomb, mais y a-t-il une façon de se protéger illégalement contre des coups de poing?
Oui, très facilement. D'ailleurs, si tu regardes, j'ai parlé l'autre jour des commotions cérébrales, puis c'est pas la boxe, c'est pas le... c'est pas le sport où ça arrive le plus, parce que à la boxe, on apprend à jouer avec le coup. On apprend le... T'apprends ton cerveau, c'est une grosse gélatine qui est dans une boîte hermétique, dure. Ça fait que si tu fais l'image, là, tu cognes sur la boîte dure, là, d'une façon, mais la gélatine va se promener. Mais si tu suis le mouvement, et tout est correct. Et c'est pour ça qu'il arrive bien le football. Le football, il ne se ferait pas taper sa tête. Mais quand il arrive par en arrière, là, souvent, ils ont des commotions cérébrales parce que la tête s'en va, ça donne un coup par en arrière. Ton cerveau, lui, va claquer d'un bord puis de l'autre. Puis c'est là que les commotions cérébrales arrivent.
Et c'est ça qui était la plus grande force. J'ai parlé de Mohamed Ali tantôt. Les adversaires n'étaient pas capables de le pincer solidement. Il était tellement fort, il bougeait tellement bien ses épaules, son cou, puis sa tête. Les adversaires n'étaient pas capables de le mettre KO. C'était impossible de le pincer d'aplomb.
Oui, puis si tu vois, tu regardes des bons combats, là, des cons combats de professionnels à l'heure actuelle. Tu vois, les gars, souvent, ils vont même se permettre de recevoir un coup de poing, mais ils vont partir. Tu vas voir partir la tête en même temps que le coup de poing pour qu'ils puissent s'approcher de l'adversaire, qu'ils puissent riposter. Fait que c'est vraiment un jeu là de... c'est pour ça que la technique de boxe est vraiment... On parle de technique de boxe, quand tu regardes ça de loin, tu dis, ah, c'est frappé. Mais moi, je dis toujours, ben garde, la boxe, ça, c'est toucher un adversaire et pas se faire toucher.
Si ma mémoire est bonne, tantôt, on parlait des mouthpiece puis de l'arrêt de l'arbitre. Ça se peut-tu que Stéphane Ouellet avait perdu un combat, il avait échappé son mouthpiece et l'arbitre n'avait pas arrêté le combat puis il avait perdu? Oui ça se peut, hein,
oui,
me semble, dans
oui,
ma mémoire.
Oui. Ça me dit quelque chose.
Ça se peut-tu que c'était contre Hilton?
Contre Hilton, je me sens.
Oui.
Mais à un moment donné, Hilton aussi, dans le même combat, Hilton avait perdu son mouthpiece, puis s'était penché pour le ramasser sans que l'arbitre le dise. Puis Stéphane Ouellet ne l'avait pas frappé. Il aurait pu continuer à frapper.
Ah oui, il aurait pu?
Oui. Il aurait pu. L'arbitre n'a pas dit aucun brin, puis lui, il se penche pour ramasser son mouthpiece.
Étant donné qu'on est dans les questions techniques, advenant le cas que l'arbitre demande d'arrêter de frapper, là, mais que le boxeur continue puis il pince solide, est-ce que l'arbitre peut disqualifier le combattant?
Oui, automatiquement.
Bon, automatiquement, oui. Si l'arbitre demande d'arrêter de frapper, puis le gars continue...
Un call de l'arbitre, ça, c'est pas... tu vois des arbitres au hockey, n'importe quoi, c'est un call de l'arbitre, ça, c'est sacré.
Ah ouais?
Tu dis, gars, c'est un break, si tu breaks pas, ben, tu vas être pénalisé en conséquence.
Mais pénalisé, disqualifié? Ça peut-tu aller jusque-là?
Il peut être disqualifié.
Ah ouais?
Si l'arbitre a demandé de le break, puis il frappe après son de la cloche, puis il met le gars knock-out ou il blesse, supposément, ben, l'arbitre va le disqualifier. Le gars, il gagnera pas son combat, là.
Ouais.
Il va être simplement disqualifié.
Mais souvent, on voit ça, là, il y a un boxeur qui est mal pris dans le coin, puis là, celui qui domine le combat frappe, l'arbitre demande l'arrêt, mais il y a un autre, un dernier coup de poing qui vient, mais des fois, c'est dans le feu de l'action. Pour l'arbitre, ouais, c'est pas facile à gérer ce nombre de coups de poing-là, là.
Ouais, c'est sûr que dans le feu de l'action, à un moment donné, l'arbitre, c'est un peu s'interposant entre les deux, puis il y a un coup de poing qui passe encore, tu sais. C'est très, très dur à évaluer, surtout que si le gars, il a déjà débordé son adversaire, mais tu sais, tu peux pas dire « je vais disqualifier ce gars-là » parce que souvent, l'arbitre va s'interposer d'abord dans ce temps-là pour arrêter le combat. Et souvent, là, ça va être ça. Mais s'il a vraiment demandé un break, puis l'autre réagit pas, puis il frappe encore une, deux fois là-dessus, puis il va mettre l'adversaire en accord, ben il va être disqualifié.
Michel, c'est vraiment agréable de parler de boxe. C'est tout le temps qu'on a pour cette semaine, mais on se reprend dans 7 jours. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
Ça me fait plaisir, Michel.
Michel Desgagnés pour la boxe, les Yankees de New York avec Gerrit Cole, l'un des meilleurs lanceurs du baseball. Écoutez, ça affiche 13 victoires, 4 défaites. Mais les Jays vont bien depuis 5 matchs. Berrios sera le lanceur partant pour Toronto. On en discute dans un instant avec Michel Bureau.
B6. Ou 66.
Entendre mieux, ça change tout. B6. B6. Ou 66. Faites un choix gagnant et contactez le groupe Forget Audioprothésiste au 1-888-OREILLE pour obtenir un test de dépistage sans frais. Offre permanente avec le groupe Forget Audioprothésiste. C'est rendu une tradition depuis plus de 5 ans. À tous les dimanches, 16h, sur les ondes du 92.5, vous participez au bingo, au super bingo. À chaque semaine, 4000$ à gagner avec nos 4 jeux. Le 2 lignes pour 500$, le H aussi pour 500$, la carte pleine pour 2000$ et la carte pleine consolation pour 1000$. Et en plus, avec l'inflation, ben les cartes de bingo du 92.5 n'ont pas augmenté. Toujours à 5$ dans nos nombreux dépositaires partout dans la région. Achetez-les rapidement et on se donne rendez-vous à tous les dimanches, 16h, pour le bingo du 92.5. 4000$ en prix. Bonne chance!
Le 92.5 vous annonce que le temps de la chasse est ouverte. C'est le grand lancement du tirage, la chasse à l'as de la Fondation Santé Jonquière. Je vous présente votre as de cœur, Jean-Michel Côté.
C'est un nouveau départ pour la chasse à l'as de cœur qui vaudra un minimum de 5 000$ pour le premier tirage sur nos ondes, jeudi le 28 septembre à 11h30. Le coût des billets est de 5$ pour un billet, 10$ pour 3 billets et 20$ pour 10 billets. Rendez-vous à la fondationsantéjonquière.com pour acheter vos billets ou téléphoner au 418-695-7711. Achetez en ligne à la Fondation Santé-Jonquière.com ou appelez au 418-695-7711. Les billets seront en vente dès le 21 septembre et bonne chasse!
Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifaut et Dominique Bolduc.
Avant de s'entretenir de baseball, mise à jour de tennis, on suit Leila Annie Fernandez au Mexique. Elle joue contre l'Américaine Sofia Kenin et c'est 5-4 pour Kenin au premier set, première manche baseball. Alors, on est vraiment dans le dernier droit du calendrier. Michel Bureau, bonjour.
Salut Michel, ça va bien?
Très bien, les Jays gagnent, mais depuis une couple de jours, Texas et Seattle également. Qui va terminer en avant de ce peloton?
Écoute, ça va être fort excitant d'ici la fin de la saison. On rentre dans le dernier droit. Et en fin de semaine, on va surveiller tout particulièrement la série entre les Mariners de Seattle et les Rangers du Texas. Ça devrait avantager les Jays finalement pour la meilleure deuxième.
Par contre, Michel, si on regarde le calendrier, les Jays, c'est contre Tampa Bay en fin de semaine. Ils sont bons, Tampa Bay.
Ouais, c'est là que le bas blesse. C'est là que c'est difficile. Contre les Yankees, je pense que les Yankees ont laissé tomber la serviette. Ça va pas bien chez les Yankees de New York. Boone a été suspendu hier pendant le match. Il a pris le mort aux dents. Les gars, on sent pas que les gars ont hâte que ça finisse. Donc, ça, c'est un plus pour les Blue Jays parce qu'ils vont les affronter ce soir. Et il y aura une autre série contre les Yankees au retour de l'équipe à Toronto.
Mais ce soir, c'est pas dans le sang que ce soir avec Gerrit Cole du côté des Yankees.
Absolument, t'as parfaitement raison, Michel. C'est peut-être le match que les Blue Jays pourraient perdre. Mais comme je t'ai dit, l'atmosphère chez les Yankees est tellement mauvaise que peut-être que les Blue Jays vont quand même venir à bout des Yankees. En tout cas, je le souhaite.
Est-ce qu'on en sait plus sur la nature de la blessure de Guerrero? Il n'a pas joué hier. Avant hier, il a frappé un coup sûr. Il a eu de la difficulté à se rendre au premier but. Blessé au genou. J'espère que c'est pas trop grave. Ils en ont besoin de Guerrero, là.
Absolument, surtout que Vladimir avait trouvé tous ses moyens dans les derniers matchs qu'il a joués, notamment, on se souviendra de ses 3 circuits en 3 matchs. Alors, ça allait très bien pour lui au moment qu'il a été blessé. Mais on ose espérer du côté. On n'a pas d'autres nouvelles de bilan de santé concernant Vladimir. On espère qu'il pourrait être de retour dans la série contre les Rays de Tampa Bay. On reste optimiste. On a bien sûr besoin de Vladimir Guerrero, qui connaît quand même une bonne saison. 24 circuits, 90 points produits, domine l'équipe au chapitre des points produits. Alors, c'est pas une mauvaise saison pour Vladimir Guerrero tout de même. Donc, on a besoin de lui. Mais ce qui est intéressant mais important, c'est les 6 matchs contre les Rays de Tampa Bay. C'est pas gagné d'avance, Michel,
parce que
on sait que les Rays ont toujours été la bête noire des Blue Jays. Et en plus, les Rays, ils luttent pour la première place de leur division. Alors, il n'y aura pas de cadeau du côté des Rays de Tampa Bay. Puis d'autant plus, ils ont eu une bonne nouvelle. Ils auront un nouveau stand, les Rays de Tampa Bay. Alors, les gars sont motivés.
Ça gagne pas de match, un nouveau stade. Mais t'as raison. Ça veut dire que ça conserve l'avenir des Rays de Tampa Bay en Floride.
Absolument. Ça va confirmer que les Rays vont demeurer. Là, c'est Oakland, le dossier des Aces d'Oakland à Redley, là,
ouais.
Pour le baseball.
Il y avait 5 000 personnes hier à Oakland.
Ah, c'est décevant. Fait que ça, c'est un dossier aussi à Redley du côté du baseball majeur. Mais je voulais te parler de Cam Hayden. Tu sais, on a souvent parlé au cours des dernières semaines. Tu disais que les Blue Jays ne volent pas de but, le court et frappe. Mais là, ils ont été chercher, ils ont rappelé de l'équipe école de Buffalo, Cam Hayden, il y a 53 buts volés en 56 tentatives dans la Ligue internationale avec le club école à Buffalo. Alors, ça va être un gros plus pour les Blue Jays en fin de match. parce qu'on sait Kirk, Alexandro Kirk puis Chapman, ce sont pas des gars rapides, mais en fin de match, voilà peut-être une solution pour les Blue Jays.
Toi, ce serait ton rêve d'avoir, tu parlais de Ruiz également avec Oakland, ton rêve c'est d'avoir un voleur de but avec les Jays.
Ben oui, absolument, parce que ça viendrait compléter le tableau. Tu sais que les Jays, un coup dans les séries, si jamais les Jays sont les derniers à se qualifier, la dernière équipe à rentrer dans les séries, ils vont affronter les Twins du Minnesota. C'est ce que plusieurs souhaitent, parce que ça nous permettrait de voir Édouard Julien, qui connaît de très, très bons moments avec les Twins du Minnesota.
En parlant de voleurs de but, il y en a un jeune du côté des Diamondbacks de l'Arizona, Corbin Carroll. Il est devenu le premier joueur de l'histoire à frapper 25 circuits hier et 50 buts volés à sa première saison. On le prendra à Toronto, lui, l'année prochaine.
On le prendra à Toronto. Écoute, c'est un gros plus du côté des Diamondbacks de l'Arizona. On parle beaucoup d'Edouard Julien, mais comme tu le mentionnes si bien, Corbett Carroll connaît toute une saison avec les Diamondbacks d'Arizona. Quand on parle de circuits puis de buts volés, c'est-à-dire d'Acuna, qui est en train de réaliser un exploit. Un exploit jamais vu dans l'histoire du baseball majeur. 40 circuits, au moins 40 circuits, 70 buts volés. C'est toute une machine à Acuna du côté des Braves d'Atlanta.
Bon, OK. Alors là, on se concentre sur les Jays pour le week-end. Dernière partie ce soir contre les Yankees. Ensuite, c'est Tampa Bay. Est-ce que le personnel de lanceur va tenir le coup du côté des Jays? Puis le coach devrait y aller de
face. Ça va bien, Michel. Les derniers matchs, les dernières sorties de Kikuchi étaient bonnes. Gossman, hier, il était très solide. Lancé tout un match. Chris Bassett également était bon à son avant-dernière sortie. Alors, c'est de bon augure pour les Blue Jays. Et en relève, je pense que les Blue Jays sont quand même très solides. Ils ont de bons lanceurs. Ils ont rien à envier à aucune équipe dans le baseball majeur au niveau de la relève. Parce que là, on a Hicks, on a Genesis Cabrera qui fait également de l'excellent travail. Il y a Romano, il y a Swanson qui semble avoir retrouvé ses moyens. Alors, c'est de bon augure. Du côté-là, on n'a pas de problème. Mais là, il lui manquait une pièce au casse-tête. C'est un voleur de but. Je pense que là, on y a trouvé une solution.
Si jamais on va en série, là, tu parlais de l'adversaire potentiel qui pourrait être les Twins du Minnesota. Est-ce que c'est un 4-5 ou un 3-5 la première série?
Un 3-5, et puis mais ça va être très excitant parce que ça va nous permettre d'avoir Édouard Julien. Puis les Twins, ils sont prenables, d'autant plus que les Twins, en fin de saison, viennent de perdre deux joueurs importants qui sont sur la liste des blessés. Alors, ça devrait aider. On parle autour de Correa, qui est un excellent joueur du côté des Twins, qui est blessé pour la balance de la saison. Alors, c'est de bon augure. Ils sont prenables, autrement dit, en première ronde. Il faut mieux affronter les Twins qu'affronter les Orioles ou encore les Rays de Tampa Bay.
T'as bien raison. Puis à Québec, mais là, la saison des Capitales est terminée?
Hey, quelle belle saison pour les Capitales de Québec. 15 sales comptes, des assistances records. Je suis tellement content pour Michel Laplante, Patrick Scalabrini, qui ont fait un excellent travail. T.J. White, que dire aussi de Greg Bird, ce joueur des Yankees de New York qui a décidé comme ça, lui, malgré les millions qu'il a à banque, il voulait s'amuser, il voulait jouer à balle. Un professeur d'école dans une petite ville aux États-Unis, il a dit, ben pourquoi pas, je vais aller faire un tour. J'ai un de mes amis qui était avec les Capitales. Il a vécu une belle expérience, puis il a aidé énormément les Capitales de Québec. Alors, très content pour les Capitales. Et tu sais, Michel, que de plus en plus, il y a des questions. Le président de la Ligue, commissaire de la Ligue, a dit encore une fois que Montréal est sur la liste pour une franchise dans la Ligue Frontier. On en parle de plus en plus. Apparemment, il y a des investisseurs qui se sont manifestés. Maintenant, on est à la recherche d'un stade, mais on parle du stade Gary Carter près du métro Henri Bourassa à Montréal, pour ceux qui connaissent Montréal. Mais il y en a un autre stade Gary Carter dans l'ouest de Montréal qui pourrait, je pense, conditionnel à ajouter des estrades, mais il y a le stationnement et c'est l'espace.
Et ça prend un stade qui peut accueillir combien de personnes dans cette ligue-là?
Ça prend un stade qui peut accueillir au moins 5 000 spectateurs.
Minimum 5 000. C'est quoi la moyenne d'assistance des Capitales de Québec?
Ben, ils ont eu 15 salles comptes, plus de 180 000 spectateurs durant la saison.
C'est très bon.
Et fait à noter, aucun match remis à cause de la mauvaise température, malgré l'été épouvantable qu'on a eu.
C'est bon. Michel, bonne chance aux Blue Jays de Toronto. La semaine prochaine, ils seront peut-être classés, mais peut-être pas plus, mais qu'on s'en reparle.
Non, mais on l'espère, Michel, parce que c'est très excitant. Les amateurs de baseball sont servis à ça. C'est très bon pour le baseball majeur, là, ces courses au championnat.
On a encore pour un mois et demi pour s'en reparler. Merci beaucoup, Michel.
Hey, attention à toi, Michel. Merci, au revoir.
Au revoir. Dans un petit moment, le soccer. Mise à jour de notre match de tennis entre Kenin et puis Leila Annie Fernandez. Oh, elle a perdu la première manche. 6-4. Mais c'est des 2-3. On peut se reprendre dans la deuxième partie ce soir. Les Jays contre les Yankees de New York. Camp d'entraînement des Canadiens, ça a commencé. On va en discuter demain avec notre ami Gaston Thérien. Beaucoup, beaucoup d'activités en fin de semaine. Entre autres, le football collégial. Les Gaillards qui vont tenter de remporter une troisième victoire de suite.
Besoin de pneus, de roues, de jantes pour votre voiture, votre pick-up, votre camion.
Je suis tellement tanné, là. Tout augmente.
l'épicerie, l'essence, les loyers. Y a-tu quelque chose qui a pas augmenté?
Le prix des cartes de bingo du 92.5, toujours à 5 $.
Te crée pas.
Mais je te dis.
Te crée pas.
Mais je te dis.
Te crée pas.
Les cartes de bingo du 92.5, toujours à 5 $. Pour trouver un point de vente près de chez vous, visitez le ckaj.org.
Les cartes de bingo à 5$, te crée pas.
Mais je te jure.
Ben, je te crée. M'en acheter.
Le restaurant 4 chemins 2234 rue Saint-Jean-Baptiste de Jonquière, c'est l'endroit par excellence pour profiter d'un bon moment en famille, entre amis ou même seul. Une ambiance des plus conviviales et que dire du côté culinaire. Les déjeuners, généreux, savoureux. Oh oui, généreux, savoureux. Les dîners, un menu du jour varié et complet. Et si jamais vous avez le désir de vous offrir quelque chose de différent, eh bien oui, un choix des plus intéressants s'offre à vous. Restaurant 4 chemins, ouvert à 5h le matin, à tous les jours, 2234 rue Saint-Jean-Baptiste, Jonquière.
Bonjour, ici Jean-Marc Robitaille.
Salut, moi c'est Stéphanie Bellé.
Bonjour, ici Mario Vézina.
Ce sont nos représentants publicitaires du 92.5. Ils sont compétents et ils vous proposent des idées originales. Appelez au 418-546-2525, extension 107, pour rejoindre facilement Jean-Marc, Stéphanie ou Mario. C'est prouvé, une publicité au 92.5 vous gardera occupé parce que nos auditeurs sont fidèles.
C'est rendu une tradition depuis plus de 5 ans. À tous les dimanches, 16h, sur les ondes du 92.5, vous participez au bingo, au super bingo. À chaque semaine, 4000 $ à gagner avec nos 4 jeux. Le 2 lignes pour 500 $, le H aussi pour 500 $, la carte pleine pour 2000 $ et la carte pleine consolation pour 1000 $. Et en plus, avec l'inflation, ben les cartes de bingo du 92.5 n'ont pas augmenté. Toujours à 5 $ dans nos nombreux dépositaires partout dans la région. Achetez-les rapidement et on se donne rendez-vous à tous les dimanches, 16h, pour le bingo du 92.5. 4000 $ en prix. Bonne chance!
Saguenay, Lac-Saint-Jean.
Les incontournables du week-end. Une explosion de variétés musicales du vendredi soir jusqu'au dimanche très tard. Dance music, country, musique instrumentale, succès rétro et sentimentaux et les belles mélodies d'autrefois. Au 92.5, le week-end, une enfilade de succès dans tous les styles. À vous de choisir le vôtre. À votre radio 100% régionale.
Saguenay, Lac-Saint-Jean.
Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifaut et Dominique Bolduc.
Alors, je répète qu'au tennis, au Mexique, Leilani Fernandez a perdu la première manche 6-4 et elle perd 1-0 dans la deuxième manche contre Sofia Kenin. On va jaser de soccer parce que hier, le CF de Montréal jouait contre Cincinnati. On a échappé des points au classement. Benoît Lavoie, bonjour!
Salut Michel!
Ah, il aurait fallu être plus solide que ça en fin de match. T'as écouté la partie?
Oui, ben oui, écoute, j'ai écouté entre mes pop quiz à mon espace soccer Alma. Je fais des quiz les mercredis soirs. Écoute, j'ai 40-50 personnes à tous les mercredis soirs. Et puis, j'avais la TV, qui, c'est moi qui anime ça un peu. Fait qu'en même temps, je regardais et j'ai vu qu'en fin de match, dans les arrêts de jeu, là. Mais on, écoute, Cincinnati est en première position. Hein, ils ont une très belle saison, Cincinnati. Là, ils ont même 9 points d'avance sur la deuxième place. Et écoute, une erreur, c'était serré comme call en fin de match. Michel, est-ce que c'était penalty? Jonathan Sirois peut-être commis une erreur un peu, peut-être rentré un petit peu raide dans l'attaquant. C'est sur le bord de la ligne, de la zone de réparation. Et l'arbitre n'a pas eu le choix trop. Il a appelé un penalty là-dessus. Mais il faut savoir, quand tu regardes un peu les highlights, puis tu regardes tout ça, tu vois que Cincinnati a manqué plusieurs buts quand même. Donc le CF aurait pu s'en sortir avec une victoire d'un 0. On perd des points à Montréal. C'est dans les deux derniers matchs, un 0-0 samedi passé, puis un hier soir.
Et on a besoin de points, parce que là, il reste quoi, 5 parties à jouer?
Il reste 5 parties à jouer. Les deux prochains matchs sont à l'étranger, à Atlanta ce samedi. Après ça, on reste contre Orlando, après ça, samedi prochain. Il va nous rester 2 matchs à Montréal, contre Houston et puis contre Portland. Donc, ça va être une fin de saison, mais Montréal a quand même, il y a juste un point d'avance sur la 9e place et 5 points d'avance. Ce qui est intéressant de voir, c'est Miami qui s'en vient, là. Écoute, là, ce qu'on a parlé la semaine dernière, c'est encore possible, hein? Miami-Montréal à Montréal, dans un match de barrage, ça
sauf que là, ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que Miami s'en vient, mais ils ont perdu Messi hier. J'espère que c'est pas trop grave.
Oui, j'avais mis le match Miami en premier, puis quand j'ai vu Messi sortir à la 37e minute,
ouais.
Ça, c'est pas normal. Ça, c'est signe de blessure. On sait qu'il n'a pas joué contre Atlanta. J'avais cru lire qu'elle allait peut-être embarquer seulement en deuxième demi, mais il était dans le 11 partant. Puis il y a eu Jordi Alba, son coéquipier de Barcelone dans le temps, qui a sorti un petit peu avant lui aussi. Mais écoute, les gars, ils ont eu beaucoup, beaucoup de matchs là, dans la, depuis qu'ils sont arrivés avec l'Inter Miami. On sait qu'ils ont changé l'allure de l'équipe, là, même s'ils sont encore en 14e place. Mais quand tu regardes le classement, ils sont à 2 points, 3. Ils sont à 4-5 points avec des parties en main. Ça fait qu'ils sont très prêts. Puis on sait qu'à chaque année, la MLS, en fin de saison, là, il y a toujours 5-6 équipes là, qui sont sur le bord de peut-être ou de ne pas faire la Coupe MLS, les séries de la Coupe MLS. Mais espérons que Messi ne sera pas blessé. Est-ce qu'il sera là? Parce que Miami aussi ont encore, eux, encore 7 matchs à jouer. Donc, c'est 2 matchs. Ben, en fait, il y a un match de plus en MLS, mais ils ont une Coupe des États-Unis qui va être mercredi prochain contre Houston. Puis ça, c'est une finale. Ça va être un bon match aussi. Est-ce que Messi sera de retour? J'ai hâte de voir ça dimanche. Le match est dimanche contre cette semaine contre Orlando. Pas sûr que Miami va être de retour à ce match-là.
Et selon tes calculs, Benoît Lavoie, ça prendrait combien de victoires dans les 5 prochains matchs? Je vais les appeler comme ça les jeunes joueurs du CF de Montréal parce qu'ils ont une équipe non expérimentée.
Écoute, ça lui prendra au moins deux victoires. C'est embêtant parce que, regarde, ça fait quelques matchs qu'ils se tiennent en 8e, 9e position. On sait que c'est les 9 premières. Le match de barrage, c'est entre la 8e et la 9e place parce que les 7 premières équipes seront en 8e, en quart de finale. Un 2 victoires, d'après moi, sur 5, 2 victoires avec peut-être un match nul ou 2 assurerait le CF, mais c'est encore là, ça va dépendre des autres équipes et des autres clubs, qu'est-ce qui va se passer. Quand tu regardes, on joue contre Atlanta le prochain match. Atlanta est en 6e place, ils ont quand même plusieurs points d'avance sur Montréal. Ils ont 46 points, Montréal en a 37. Ensuite, on va jouer contre Orlando, à Orlando. Orlando, eux autres, sont plus hauts, sont en 2e place. Ça va être difficile, Orlando. On sait que le CF a beaucoup de difficultés à l'étranger. Orlando est 2e au classement présentement. On revient à Montréal contre Houston. Houston, c'est dans l'autre division, dans la section ouest. Ce ne sera pas un match facile, mais on va être à Montréal. Portland, ça va être un match difficile aussi. Quoique Portland a une saison difficile cette année. Et on finit ça contre Columbus Crew, qui sont en 3e place. Dans l'Est. Ça veut dire que ce ne sera pas un calendrier très, très facile pour le CF Montréal. Donc, j'ai hâte de voir, malgré, comme tu mentionnes, les jeunes. Hier, on a vu le retour de Wanyama. Ça faisait plusieurs matchs qu'on n'avait pas vu Wanyama. Est-ce qu'il y a une friction avec l'entraîneur Losada? Quand tu vois un gars qui est le mieux payé de l'équipe, qui fait du banc, d'après moi, il n'est pas dans les bonnes grâces de Losada, là, à mon avis. Là.
Après-midi, je suis allé au Parc Saint-Jean, à Arvida, puis je voyais des jeunes qui s'en allaient jouer au soccer en short avec leur maillot. Le soccer, on est bien content d'avoir un nouveau stade de soccer intérieur, mais le soccer dehors, on a beau dire, c'est agréable.
Ben oui, c'est sûr que quand il fait beau puis que le terrain est adéquat, c'est sûr que c'est vraiment la meilleure place pour jouer au foot, c'est bien certain, mais avec la région qu'on a, avec le Québec qu'on a, ben c'est normal que rendu à l'automne, l'hiver...
D'après toi, on peut jouer combien de temps encore à l'extérieur, un bon 2-3 semaines?
Un bon 2-3 semaines. On sait que les saisons collégiales, depuis des années, ça se joue en octobre à l'extérieur. La Coupe interrégionale qu'on a reçue à Alma, c'est pas mal dans les dernières semaines. Rappelle-toi, l'année passée, quand tu es venu à Alma, il faisait pas chaud. Il faisait vraiment pas chaud dans cette fin de semaine-là. Et ça se joue dehors. C'est comme les finales, c'est comme les dernières semaines extérieures, si on veut, là, quand on est rendu à l'action de grâce. Après ça, ben, on tombe pas mal dans l'intérieur.
C'est-tu déjà arrivé dans des tournois, des coupes ou des championnats qu'un match de soccer soit interrompu ou soit joué dans la neige?
Oui, c'est déjà arrivé.
C'est déjà arrivé ici dans la région ou ailleurs?
Moi, je dirais ici, puis je dirais ailleurs aussi. Collégial, écoute, ils jouent les saisons quand même assez tard.
Ouais.
Ils ont changé leur formule. Collégial, avant, ils pouvaient jouer 2-3 games dans la fin de semaine. Maintenant, ils font plus ça. Là. Quand tu regardes les calendriers, là, ça a évolué à ce niveau, le niveau sport étudiant. On sait que le football est déjà très avancé.
Mais ça, le football, on en voit souvent des matchs de football dans la neige, là, même
oui,
dans le football.
Tu voyais pas, Michel, une équipe de football, mettons, de catégorie secondaire, jouer 2 games ou 3 games dans une fin de semaine.
Ouais.
Alors que le soccer, c'était ça, le calendrier. Des 2 games puis des 3 games dans un... Des fois, c'était 2 games par jour. Je me souviens d'un collège. Ça a évolué au niveau des organisations. Maintenant, tu regardes les calendriers, c'est un match la fin de semaine. Des fois, s'ils sont mal pris dans les calendriers, ils vont faire un match le samedi, un match le dimanche.
Est-ce que les jeunes jouent avec des crampons? Est-ce qu'il y a des crampons sous les espadrilles?
Oui,
il y a des crampons.
Michel.
Non, mais je pose la question parce que je pose la question. J'ai vu des matchs en espadrille, là. Ça s'est déjà vu.
Ah oui, quelqu'un va jouer en espadrille, mais c'est le terrain, moi, il sera même mouilleux.
Ça prend des crampons, OK?
Ah oui, ça prend des crampons. Il y a des crampons, c'est pas en métal, mais des fois en titanium.
En plastique, oui, c'est ça.
Tu vois des choses un peu plus. Mais un plastique très, très solide, donc. Un crampon sur un mollet, ça fait pas de mal. Ça fait pas du bien non plus. Là.
Ouais, ben moi j'ai joué au baseball avec des crampons en acier, là, mais dire quand le gars arrive au deuxième but.
Si tu glissais aux deux, là, puis tu spikais le joueur de deuxième
ça
but.
Ça faisait pas de bien. Et ouais. Qu'est-ce qu'on doit surveiller? Il y a des choses d'ici les prochains jours dans le soccer ici dans la région?
Ben c'est ça. Ben écoute, comme je te mentionne, on a fait le tour du CF. On sait pour finir le CF, le contrat de Milicevic, on a vu qu'il a été résilié, hein? Avec son histoire d'aller jouer à Saint-Laurent, mais je voulais faire une note, une parenthèse sur cette histoire-là, parce que le CF Montréal, il y a deux équipes dans la MLS, parce qu'ils ont créé un circuit dans la MLS de Next-Pro de jeunes, pour permettre justement aux jeunes qui ne jouent pas d'avoir du temps de jeu un petit peu. Puis le CF est une des deux équipes dans la MLS sur 28 ou 29 équipes qui ne sont pas dans ce circuit-là, puis je pense que le CF devrait adhérer dans les prochaines années, parce que oui, le gars n'avait pas d'affaires à aller là, il avait ça à lui à s'organiser, mais ça aiderait grandement que le CF ait une équipe école qui ferait le tour de la MLS, parce que tous les clubs de la MLS ont ces équipes-là. Donc, il faudrait que dans les prochaines années, Montréal ait son équipe. Au niveau régional, il y avait les Ligues des champions, on en parlera à un autre moment donné. Ce qui se passe en région présentement, c'est le collégial qu'on a parlé depuis déjà quelques semaines. Au niveau masculin, on a l'équipe du Cégep d'Alma qui, elle, est dans la division plus forte un peu, parce qu'il avait fini dans les meilleurs classements l'année passée. Ils ont perdu 3-2 contre Rimouski la semaine dernière. Ils sont en cinquième position avec 2 défaites, 1-0 sur 6 équipes. Et ils jouent en fin de semaine Cégep Félix Garneau à Québec samedi à 16h. Au niveau de la classe B, classe 2, tu as le Cégep de Jonquière qui a gagné 6-0 contre Matane et Chicoutimi qui a gagné 3-1 contre Beauce-Appalaches. Jonquière a 3 victoires, aucune défaite dans cette division-là et Chicoutimi a 2 victoires, 1 défaite. Donc, nos deux équipes du Cégep Jonquière et Chicoutimi vont très bien. Il faut savoir que Jonquière joue à Tête-Feur dans la fin de semaine samedi à 14h et pour Chicoutimi, on joue au Parc Saint-Jacques ce samedi à 3h. Donc, comment c'est des jeunes hein, qui viennent du Venturi, qui viennent de nos clubs de soccer de la région aussi. Puis des fois, il y a des étudiants qui viennent étudier d'ailleurs, qui sont dans ces équipes-là. Puis au niveau féminin, il y a une équipe, c'est le Cégep de Jonquière, qui nous représente au niveau de la région. C'est plus difficile un peu. Une défaite de 8-0 la semaine dernière contre Cégep Garneau. Et on joue en fin de semaine à Tetford à midi samedi. Sont en 7e position sur 8. Et pour terminer, il faut savoir que nos 3-4 équipes, je pense qu'on en reparlera dans notre chronique, s'en vont là, à la Coupe interrégionale à l'Action de gaz. C'est dans quelques semaines, on fera le tour des équipes qui représenteront notre région à cette Coupe-là.
Benoît Lavoie, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup et on se reparle dans une semaine.
Salut Michel, bonne semaine.
Mise à jour du tennis, c'est 2-1 pour Leilani Fernandez dans la deuxième manche. Elle a perdu la première 6-4 ce soir, les Yankees. Contre les Blue Jays de Toronto, les Saguenayens, ça commence demain au Centre Georges Vézina contre le Drakkar de Baie-Comeau. Les Élites, 2 matchs au Foyer des Loisirs. Et les Marquis disputent un match hors concours. Demain au Palais des Sports, je me suis tiré. Attends, je vais tirer comme il faut, je vais être sûr de voir le bon nom sur l'alignement. Je pense que Brashear est sur l'alignement demain. Je vais vérifier avec Bob Desjardins. Je pense que Brashear pourrait être en uniforme pour le match en concours demain des Marquis au Palais des Sports. Je vous en redonne des nouvelles dans un instant.
Chez Léo Automobile Honda, on relève le défi de vous offrir des véhicules en inventaire et livrables en 24 heures. Choisissez votre CR-V ou votre HR-V en stock et on vous livre en 24 heures seulement. On a toujours une longueur d'avance chez Léo Automobile Honda.
Puisque la mort fait partie de la vie, pourquoi ne pas en parler?
Les chapelles de la 5e saison.
Caroline Bédard, agente d'accueil.
À la suite de la perte d'un être cher, différents rituels peuvent être célébrés. Depuis 2005, avec l'arrivée des chapelles dans ces complexes funéraires, la coopérative ouvre maintenant la porte aux célébrations de la parole et d'adieu afin d'offrir des célébrations personnalisées selon les valeurs et croyances des personnes décédées.
L'Alliance funéraire du Royaume, présent à chaque instant.
Je suis tellement tanné, là.
Tout augmente. L'épicerie, l'essence, les loyers. Y a-tu quelque chose qui a pas augmenté?
Le prix des cartes de bingo du 92,5 toujours à 5 $.
Te crée pas.
Mais je te dis.
Te crée pas.
Mais je te dis.
Te crée pas.
Les cartes de bingo du 92,5 toujours à 5 $. Pour trouver un point de vente près de chez vous, visitez le ckaj.org.
Te dis. Les cartes de bingo à 5 $. Te crée pas.
Mais je te jure.
Ben je te crée. M'en acheter.
Leader en toile sur mesure depuis près de 40 ans, la qualité des toiles TCI est reconnue dans tous les domaines. Confection de toiles fixes ou rétractables pour la roulotte ou pour la maison, toile de bateau, de camion, nommez-les. C'est sur mesure, donc on s'adapte à vos besoins. Toiletcci.ca.
92.5
La radio d'ici.
Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifot et Dominique Bolduc.
Et c'est le football de la NFL qui est en onde avec Jean-François Maltais. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Confirmé, là. Laurent Duvernay est tardi, c'est la retraite. Il aura connu une belle carrière, faut bien le dire.
Ah ben ça, c'est certain, certain. Écoute, un précurseur au niveau du... Bon, c'est pas le premier joueur québécois qui a évolué dans la NFL, mais certainement le plus connu dans l'histoire de la province, assurément. Son titre du Super Bowl avec les Chiefs également. Et ce qui est le plus impressionnant, je dirais, Michel, dans la carrière de Laurent Duvernay-Tardy, c'est qu'il a atteint la NFL. Il a été un partant plusieurs années dans la NFL, ce qui est déjà un exploit en soi, mais en provenance du réseau universitaire canadien.
Ouais.
Ça, c'est vraiment impressionnant, parce que je n'ai absolument rien contre le réseau universitaire canadien. Au contraire, je respecte. Il y a d'excellents athlètes, d'excellents entraîneurs, d'excellentes universités là-dedans. Mais il faut avouer quand même qu'on est loin du niveau de la NCAA Division 1 aux États-Unis. Donc, le niveau de compétition là est beaucoup plus élevé aux États-Unis. Donc, pour qu'un gars fasse son chemin comme ça, qui arrive dans la NFL... Et il performe. Puis aussi, là, son côté hors terrain aussi, qui a été exceptionnel. C'est un individu exceptionnel pour l'avoir rencontré en personne. Écoute, c'est vraiment un des meilleurs modèles, sinon le meilleur pour les jeunes.
Il y a un match ce soir dans la NFL, les 49ers de San Francisco, qui ont déjà deux victoires en poche contre les Giants de New York. Surpris de ces deux victoires pour les 49ers?
Non, pas surprenant, parce que les 49ers constituent une grande puissance dans la NFL, ça c'est sûr et certain. On savait qu'ils avaient une grosse équipe. La grande question était de voir à quel point Brock Purdy, leur jeune carrière, qui est arrivé un petit peu de nulle part l'année passée, on le rappelle, choix de septième ronde, dernier joueur repêché au repêchage de 2022 dans la NFL, finalement qui a profité des blessures pour s'établir en fin de saison, puis a connu un parcours inespéré. Bon, on se rappelle qu'il avait été blessé dans les éliminatoires face aux Eagles de Philadelphie en demi-finale de la NFL, et c'était une grosse blessure au niveau du coude. Il a dû être opéré, et on se demandait à quel point il allait être efficace en ce début de saison là, suite à cette blessure-là. Et on a revu le même Brock Purdy que ce qu'on a vu l'année passée, un gars très efficace, fait de belles lectures dans les couvertures, se contente souvent du jeu simple, puis c'est ce qu'il faut faire quand on a une équipe comme les 49ers qui a une excellente défensive et également une excellente attaque au sol. On l'a vu avec Christian McCaffrey qui a été vraiment excellent dans ses deux premiers matchs. Écoute, deux fois a obtenu plus de 100 verges au sol. Alors, écoute, on a un alignement, là, Michel, là, de premier ordre du côté des 49ers.
Après deux semaines d'activité, il y a des déceptions, Jean-François, depuis le début du calendrier?
Ah, ben certain. Écoute, la plus grande déception, c'est les Bengals. On est obligé de dire que c'est les Bengals de Cincinnati, qui, eux aussi, c'est une équipe aspirante avec Joe Burrow. Joe Burrow qui a obtenu le plus gros contrat pour un carrière dans l'histoire là, dans les dernières semaines.
Sauf que là, il est blessé, puis il était absent de l'entraînement. Si Burrow n'est pas là, ils ont pas fini d'avoir de la misère, les Bengals.
Ben, t'as tout à fait raison, Michel. T'as tout à fait raison. Et le problème qu'on a chez les Bengals, c'est que oui, on a deux défaites, mais en plus, ces deux défaites-là ont été subies contre des adversaires directs de notre division, c'est-à-dire les Browns de Cleveland et les Ravens de Baltimore, dont un match la semaine passée à domicile face aux Ravens. Alors, ça augure... Écoute, est-ce qu'il faut paniquer? Non. Mais est-ce qu'il faut se poser des questions? Oui, comme tu l'as dit, c'est sûr et certain que si Joe Burrow n'est pas là en fin de semaine, et là, on sent, tu sais, je disais tout à l'heure des commentaires, l'entraîneur qui, on lui a posé la question, c'est sûr qu'on veut pas trop répondre, est-ce que Burrow va être là? Il avait pas l'air très enthousiaste. Alors là, si on se ramasse déjà à se dire aux trois, là, ça va commencer à être extrêmement difficile. Si on était, Michel, dans la division sud de la conférence américaine, je te dirais, ouais, même à 0-3, je pense qu'on peut revenir. Mais dans la division nord, là, avec les Ravens, déjà à 2-0, on a vu le match de fou que se sont livrés les Browns et les Steelers lundi soir. Un match physique à souhait. Écoute, ces deux équipes-là, eux aussi, là, ont des formations de qualité. Alors là, ça va devenir de plus en plus difficile pour les Bengals.
Ça va pas bien dans la bourgade des Bears de Chicago. Là, le directeur général est obligé d'intervenir pour éteindre des feux allumés par le quart arrière Justin Fields, qui a effectué des commentaires maladroits vis-à-vis les coachs. Tabarouette, ça va pas bien, Chicago?
Non, ben ça va pas bien. Écoute, hier, Michel, c'était une journée catastrophique pour les Bears. Comme tu l'as mentionné, Justin Fields y est allé de ces commentaires-là. Et c'est pas la première fois que Justin Fields il va de tels commentaires. Il a un petit peu critiqué ses coéquipiers aussi dans la première semaine, semblant vouloir dire que, bon, les receveurs n'avaient pas nécessairement fait le travail, etc. Et là, commence à parler un petit peu contre les entraîneurs. Et on l'a ramené, imagine-toi, un petit peu plus tard dans la journée pour venir un petit peu modérer ses commentaires. Mais l'autre chose, écoute, on a également le coordonnateur défensif qui était à l'écart de l'équipe depuis quelques jours, quelques semaines, pour des raisons nébuleuses, des raisons personnelles. Et là, il a démissionné hier aussi dans la foulée de tout ça. Et là, ça implique là une enquête policière qui a eu lieu chez eux. On a trouvé des choses. Alors là, immédiatement, a dû démissionner. Alors, c'était pas une bonne journée hier là, pour les Bears, en plus que les deux matchs qu'on a perdus en début de saison. Bon, on ne s'attendait pas à ce que les Bears soient des aspirants cette année, mais on voulait voir une progression. Mais là, actuellement, ça ne va pas bien du tout de A à Z, que ce soit l'attaque, la défensive, personnel d'entraîneur, il n'y a rien qui fonctionne actuellement.
Bon, OK, je prends note des matchs à venir en fin de semaine. Qu'est-ce qu'on doit surveiller dans notre calendrier, Pascal?
Bon, excellent. Alors, on va y aller tout d'abord dans la case horaire de 13h. On a quelques matchs à surveiller dans cette case horaire-là. J'aime bien l'affrontement entre les Falcons et les Lions de Détroit. Michel, on parlait de surprises, bon, de déceptions, mais il y a des surprises aussi. Les Falcons constituent une de ces surprises-là à 2 victoires, aucune défaite. Les amateurs de jeu au sol, là, regardez les Falcons d'Atlanta. En plus, vous allez pouvoir voir notre Québécois Mathieu Bergeron, qui fait très bien en début de saison. Mais on court beaucoup avec le ballon. On a deux porteurs de ballon de premier plan. Tyler Allgeier, qu'on a repêché l'année passée, et Bijan Robinson, qu'on vient de prendre en première ronde cette année. Donc, ces deux gars-là courent bien avec le ballon. On a une défensive améliorée également par rapport aux années passées. Donc, on disait, moi, le premier, que dans la division sud de la Conférence nationale, ça allait être une des divisions les plus faibles. Mais là, on a trois équipes, pardon, à 2 victoires, aucune défaite. Falcons, Saints et Buccaneers. Donc, les Falcons qui s'en vont à Détroit, qui, eux, les Lions, on se rappelle, avaient battu les Chiefs dans la première semaine. La semaine passée, on a perdu un match serré, donc aucune panique du côté des Lions. Ça demeure une formation très excitante à regarder aller. Donc ça, c'est le premier match à surveiller. Je viens de parler des Saints, Michel, eux aussi à 2-0, s'en vont à Green Bay, qui eux aussi ont 2 victoires, aucune défaite. On disait que les Packers sont à 1 victoire, 1 défaite, mais ils ont justement perdu un match serré la semaine passée contre les Falcons, 25-24 par un point seulement. On disait que les Packers allaient être en reconstruction, mais c'est pas nécessairement le cas. Je pense qu'on aime ce qu'on voit de Jordan Love actuellement. Alors, un bon duel entre les Saints, qui ont toujours une bonne défensive, de même que les Packers. Le match est à Green Bay. Donc ça va être intéressant. Et dans la case horaire également de 13h, je te dirais, là, Michel, qu'il faudra surveiller aussi le match entre les Chargers de Los Angeles et les Vikings du Minnesota. Pourquoi? Deux équipes à aucune victoire, deux défaites, mais deux équipes qui étaient dans les éliminatoires l'année passée. On avait de grandes aspirations du côté de ces deux équipes-là, mais ça ne se déroule pas comme prévu. Du côté des Chargers, deux défaites serrées, donc c'est sûr qu'on a affronté des bons adversaires du côté des Chargers. On a perdu contre les Dolphins et les Titans sur la route la semaine passée, deux matchs serrés. Mais du côté des Vikings, là, on a perdu contre les Bucks et également la semaine passée au match du jeudi soir contre les Eagles. Alors, ces deux équipes-là, écoute, doivent absolument gagner là, à 13.
Mais il y en a juste une des deux qui va se relever. Là. Il y en a une qui va se retrouver avec 0-3.
C'est en plein ça. C'est en plein ça.
Après ça, 16h?
Oui. Ouais, du côté de 16h, écoute, je te dirais que la case, c'est pas la meilleure case horaire de 16h qu'on a vu dans l'histoire. Il y a trois matchs seulement. Les Bears, on vient d'en parler face aux Chiefs. Écoute, je pense que les Chiefs devraient l'emporter facilement face aux Bears. On a les Cowboys qui visitent les Cards de l'Arizona, qui eux aussi, c'est une équipe de dernier ordre. Alors, les Cowboys qui sont très impressionnants dans ce début de saison. Alors, on va surveiller surtout, je te dirais, le match entre les Panthers de la Caroline et les Seahawks de Seattle. Toujours aucune victoire du côté des Panthers. Et là, mauvaise nouvelle, Michel. En plus, aujourd'hui, on apprend que Bryce Young, le tout premier choix au repêchage cette année, ne devrait pas jouer le match. Il est blessé à une cheville. Donc, c'est Andy Dalton qui va jouer face aux Seahawks de Seattle à Seattle. Et du côté du match dimanche soir, avant de passer au lundi, parce qu'on a deux affrontements de lundi.
Oui, ben oui.
Donc, le dimanche soir, Michel, c'est les Steelers qui s'en vont à Las Vegas pour affronter les Raiders. Deux équipes à une victoire, une défaite. Je te dirais que c'est deux équipes qui ont quand même des faiblesses là, et qui donnent du jeu excitant. Mais du côté des Steelers, l'attaque ne va pas très bien. Du côté des Raiders, je dirais que c'est la défensive qui est un petit peu décevante. Jimmy Garoppolo a bien fait dans le premier match, mais ça a été plus difficile aussi dans le match contre les Bills.
Et lundi? Lundi prochain?
Ouais, et lundi, deux matchs à se mettre sous la dent lundi. Ça va être intéressant. Le premier match à 19h15, c'est les Eagles qui affrontent les Buccaneers de Tampa Bay. Les Bucs, eux aussi, une équipe surprise à deux victoires, aucune défaite. On s'attendait à rien des Bucs cette année avec le départ de Tom Brady. Mais on est obligé d'avouer que Baker Mayfield fait du bon travail actuellement. Il profite bien des receveurs de passe qu'il a à sa disposition. Écoute, on a des joueurs vedettes comme Mike Evans et Chris Godwin. Donc, Mayfield fait le travail et la défensive des Bucs, je pense que c'est encore une défensive avec beaucoup de vétérans qui jouent du bon football. Ça se poursuit. On reçoit les Eagles qui, eux aussi, ont gagné deux matchs jusqu'à maintenant. On sait que les Eagles, c'est les finalistes de l'an passé. Donc ça devrait être un très, très bon affrontement. Et ça se conclut, Michel. On parlait des Bengals tantôt. Nous aurons notre réponse, savoir si Joe Burrow va jouer ou non dans les prochains jours. Mais eux vont recevoir les Rams de Los Angeles. Eux aussi, c'est une équipe qu'on n'attendait pas grand-chose versus leur saison de l'an passé qui était difficile. Mais on a quand même, je trouve qu'on fait du bon travail du côté des Rams. On a liquidé beaucoup de joueurs. Mais il y a certains jeunes là, qui semblent s'établir, dont le porteur de ballon, Kyren Williams, qui a connu tout un match la semaine passée. On a encore Matthew Stafford comme corps arrière. Donc, Michel, si Joe Burrow ne joue pas dans ce match-là, je pense qu'on doit aimer les chances des Rams là, à Cincinnati.
Bon, on va reparler de tout ça dans une semaine.
Merci beaucoup.
Merci Jean-François Maltais. Au revoir, 16h28. Mise à jour du match de tennis de Leila Annie Fernandez. Elle s'est inclinée dans la première manche, 6-4 contre l'Américaine Sofia Kenin, mais dans la deuxième manche, elle mène 3-2. Ce soir, les Blue Jays contre les Yankees, mais c'est le meilleur lanceur des Yankees ce soir. Gerrit Cole, mais c'est Berrios qui va lancer dans le camp des Blue Jays de Toronto qui ont 5 victoires d'affilée. Mais ça va bien pour Seattle et ça va bien également pour les Rangers du Texas. Match complété cet après-midi, les Rays de Tampa Bay qui l'emportent 5-4 contre les Angels et les Brewers qui ont blanchi les Cards de Saint-Louis 6-0. Le camp d'entraînement des Canadiens est commencé. Demain, on en discute avec Gaston Therrien. Début de la saison des Sags. Les Marquis matchs en concours. Je vérifie toujours si le nom de Donald Brashear est sur l'alignement. Il est son nom sur l'alignement. Je pense qu'il va jouer demain. Sérieusement, si Brashear est en uniforme demain, c'est 150 billets vendus de plus. Et les élites vont jouer à domicile ce week-end. Fouet des loisirs d'Arvida. Le trio est incomplet ce soir. Le petit Henriot de Dominique n'était pas au sport cet après-midi. Il n'est pas dans le retour, mesdames, messieurs. Je vous confirme que Dominique est au terrain de golf de Saint-Gédéon. Puis il fait bien. Parce qu'il fait beau. Puis moi, j'ai joué au basketball l'après-midi tellement qu'il faisait beau. Alors, Jean-Michel Tremblay et Éric Lavoie seront de retour dans un petit moment pour 90 minutes d'information.